Ils sont en quatrième SECPA au collège Youri Gagarine de Trappes et ils ont souhaité interviewer un policier. C'est un major de la police nationale qui vient répondre à leurs questions.
Bien, bonjour à tout le monde. Donc, je suis le major Detko Stéphane. Je travaille à l'hôtel de police de Saint-Quentin-en-Yvelines. Je suis ce qu'on appelle un officier de prévention depuis 2006. Je suis rentré dans la police en 1991. Donc j'ai à peu près 34 ans de police et j'ai effectué les différents métiers que vous pouvez voir, police secours, les brigades d'intervention criminelle, la brigade des accidents et des délits routiers, les groupes de sécurité de proximité, bref, j'ai pu évoluer au sein de différents corps de métiers dans la police, toujours en étant dans le grade de gardien de la paix, donc aujourd'hui je suis major de police au dernier échelon.
Bonjour. Merci d'être venu, nous sommes contents de vous rencontrer. Nous sommes des élèves de la 4e an du collège Youri Gagarine et aujourd'hui nous allons vous poser des questions sur votre métier.
Comment devient-on policier ?
Alors, c'est une très bonne question, très large à répondre. Il est essentiel aujourd'hui, quand on veut devenir policier, d'avoir absolument un bac. Que ce soit le bac professionnel, le bac général ou le bac technologique, il faut absolument avoir son bac pour pouvoir prétendre à passer son concours. Et bien sûr les épreuves, épreuves écrites, épreuves théoriques, épreuves sportives et une épreuve bien sûr d'entretien individuel devant un jury composé de commissaires, de psychologues et de policiers. Et les deux autres conditions, bien sûr, avoir la nationalité française et surtout ne jamais avoir de casier judiciaire.
Existe-t-il un centre de formation pour devenir policier ? Combien d'années d'études ?
Alors, je réponds à la dernière question. Encore une fois, peu importe le nombre d'études, aujourd'hui, pour devenir policier, gardien de la paix, le premier corps avant lieutenants, les officiers de police et puis les commissaires, peu importe le nombre d'études, il faut simplement avoir un bac. Ça, c'est la première condition. Maintenant, on peut devenir policier et ce ne sont pas des gardiens de la paix, ce sont des policiers adjoints où là, on peut devenir policier en passant un concours sans avoir le bac. Effectivement, ça donne l'opportunité des personnes plus jeunes, entre 17 et 18 ans, de passer forcément les épreuves sans avoir le bac. Par contre, on a un contrat à durée déterminée de 2 fois 3 ans, ce qui fait qu'on va être pendant 3 ans, 3 mois d'école, mais non, ça doit être 4 mois, 3 ans, reconduit 3 ans, et on ne peut devenir policier que pendant les 6 années du contrat qu'on a signé. Au bout des 6 années, on est dehors. Sauf qu'on donne l'opportunité à des personnes qui sont policiers adjoints. Vous allez voir ici, c'est des petites barrettes bleues, bleu ciel. Ils n'ont pas des grades comme nous. Eh bien, on leur donne l'opportunité de passer le concours, alors que je n'ai pas eu mon bac, en interne. C'est-à-dire qu'on leur donne des postes qui sont générés pour ceux qui sont rentrés policiers adjoints et devenir des futurs gardiens de la paix dans un concours qu'ils vont devoir passer, mais en interne cette fois-ci. Il faut, pour être gardien de la paix, avoir donc le concours. Entre le moment où on passe le concours aujourd'hui, janvier, février, on a les disponibilités pour pouvoir avoir les admissions, le dossier à remplir. On a une année pour passer les épreuves et en général, on rentre au bout d'une année en école de police. Et l'école de police, aujourd'hui, c'est 12 mois. 12 mois d'école, formation théorique de tronc commun de 3 mois. Et après, on a des stages pratique dans des commissariats ou dans des à la police de l'air des frontières, chez les CRS, il y a des stages aussi. Et là, on est au moins pendant 6 mois de l'année en stage. Voilà.
En quelle année avez-vous commencé le métier de policier, monsieur ?
Alors, comme je l'avais dit tout à l'heure, mais on peut revenir. Moi, j'ai commencé. Donc, à l'époque où dans les années 80, il y avait le service militaire. Donc je suis revenu du service militaire et j'ai commencé à travailler dans la vie active, dans le privé, en tant que technicien de maintenance. Mais pendant ce temps-là, je me suis dit, je vais passer mes concours. J'avais toujours l'envie d'aller vers l'uniforme, non pas l'armée, mais plutôt les uniformes civils comme la police ou les pompiers. Et donc, j'ai passé 3 concours, SNCF, EDF et le concours gardien de la paix que j'ai réussi. Et c'est pour ça qu'en 1991, je suis rentré en école de police à Roubaix, qui n'existait pas encore, puisque à l'époque, il n'y avait pas encore d'école de police. C'est là où il y a les coureurs du Paris-Roubaix qui vont aller prendre leur douche au niveau du vélodrome. Et donc, on était présents à cet endroit-là et j'ai passé les 12 mois d'école à Roubaix. Pour intégrer le premier commissariat, ici dans les Yvelines, j'ai fait tout mon service dans les Yvelines, au Vésinet, le Vésinet qui est à côté du PEC, de Château, à côté de Saint-Germain-en-Laye. Et donc je suis rentré comme gardien de la paix stagiaire au Vésinet en 1992.
À quelle heure commencez-vous au travail?
Alors, les horaires, chez nous, il faut bien prendre en compte que la police est 24 heures sur 24. Donc, à l'hôtel de police, 24 heures sur 24, il y a en permanence des policiers. Par contre, on a tous des tâches et des services différents. Moi, j'ai la chance aujourd'hui d'être dans ce qu'on appelle un service hebdomadaire. C'est-à-dire que je commence la journée à l'heure que je veux, à partir de 7 heures du matin, et je peux la finir au plus tôt 16h30 ou plus tard. Pourquoi ? Parce que j'ai un appareil où j'ai sur mon ordinateur l'obligation de ce qu'on appelle pointer, c'est-à-dire badger. Quand j'arrive à mon travail, je prends ma carte de police et je badge dans un lecteur qui me dit « je suis arrivé à 7h40, 7h42 ce matin ». Je fais ma coupure pour manger, donc là je suis obligé de badger, donc je sors et je re-rentre, là tout à l'heure c'était 13h, pour pouvoir finir, soit 16h30 pour faire mes 7h53 en hebdomadaire, c'est l'amplitude horaire que je dois faire. D'accord. Si je fais plus, j'accumule des heures supplémentaires. Si je fais moins, on vient chercher dans mon crédit de temps que j'ai déjà accumulé, on va me rechercher les heures que je n'ai pas pu faire aujourd'hui. Donc, vous voyez que l'hebdomadaire, c'est un peu particulier. Avant, on pensait commencer à 8h midi, 14h, 18h. C'est pas du tout ça. Dans la police, on a des horaires très malléables, très aménagés, en fonction de l'actualité et des moments où je dois, faire mon travail d'officier de prévention.
Que faites-vous en pleine intervention ?
Alors, je vais parler pour mon service. Donc moi, je suis au service de la Brigade de Sécurité du Quotidien, la BSQ. Et dans la BSQ, on a le Bureau de Police Opérationnelle, le BPO. Donc je suis dans le Bureau de Police Opérationnelle. Et ma mission d'officier de prévention, c'est de faire des actions de sensibilisation, d'information et de prévention auprès du public jeune. Et ça démarre à la primaire avec le permis internet en CM2, jusque les années où vous êtes en université, en passant par les collèges, les lycées, les lycées professionnels, les CFA. Et donc on va exercer notre mission de sensibilisation en tant que policier sur la citoyenneté, les incivilités, les armes, le cyberharcèlement, la sécurité routière, les violences sexuelles et sexistes, comme j'ai fait il n'y a pas si longtemps que les quatrièmes, sur le consentement. Donc, on va donner la parole et que dit la loi par rapport à ça, pour essayer de comprendre qu'à un moment donné, si jamais je fais une bêtise, il va falloir que je réponde à cette bêtise. Et moi, mon travail de policier, c'est d'expliquer avant de vous retrouver en garde à vue et devant le juge que ce que vous avez fait ou ce que vous allez faire, c'est interdit, c'est puni par la loi. Et ce n'est pas les parents qui sont en prison à votre place, c'est toujours... À partir de 10 ans, on est connu responsable pénalement. Donc, il faut répondre de ce qu'on a fait. Donc, mon métier consiste à, pour l'instant, dans ce que je fais, moi, dans mon service, c'est d'essayer de vous donner une sensibilisation, une information et prévenir avant, malheureusement, de vous retrouver dans des situations compliquées.
Avez-vous déjà réalisé des enquêtes ?
Alors, oui, j'ai déjà réalisé des enquêtes. Alors, je n'ai pas été dans un service judiciaire criminel, mais j'ai réalisé des enquêtes lorsque j'étais ce qu'on appelle une brigade des accidents et des délits routiers. Quand quelqu'un refuse d'obtempérer ou quand quelqu'un crée un délit de fuite, il ne s'arrête pas alors qu'il a provoqué ou créé un accident, le bureau des accidents et des délits routiers va enquêter sur qui était l'auteur au moment des faits. Les caméras de télé, de vidéoprotection, pardon, sont aussi là pour nous donner un coup de main pour savoir si on peut identifier la voiture qui a occasionné ou renversé un piéton. Bref, oui, ce sont des enquêtes, mais spécifiques. Des enquêtes, vous pouvez avoir des enquêtes au niveau des cambriolages, des enquêtes au niveau des violences faites aux personnes, des enquêtes visant du stupéfiant, mais aussi des enquêtes visant des violences dans la famille, mais aussi des délits routiers, c'est-à-dire des personnes qui se sont mal comportées sur la voie publique.
Êtes-vous bien payé?
Ah. Ah, en fait, moi je pensais que la question allait arriver dès le départ. Mais bon, vous pouvez aller sur Internet et vous pouvez vous renseigner et regarder les grilles salariales de la profession de policier. Un gardien de la paix, quand il démarre à l'école, il rentre à l'école, il est logé nourri, il va gagner 1300 euros, c'est-à-dire l'équivalent du SMIC, 1400 euros. D'accord ? Ça, c'est quand il rentre à l'école, logé nourri. Quand il sort de l'école, il est à 1800 euros par mois, net. Moi, je vous parle du net, hein. Je ne parle pas de brut, hein. C'est dans sa poche. Donc, quand il sort de l'école, il est stagiaire, d'accord ? Il n'est pas encore titulaire, il gagne 1800. En général, au bout d'un an, au bout de deux ans, il va gagner à peu près 2000 euros par mois. Jusqu'à arriver au plus haut, et un major de police avec toutes les... Moi, je suis au sixième échelon, mais il y a encore d'autres choses au-dessus, il va arriver à presque 4000. Voilà l'amplitude entre l'école... 1300 et la fin d'une carrière comme moi, on est à peu près à 3900, 3600, 3800, entre 3800 et 4000 euros. D'accord ? Donc ça, c'est l'amplitude des salaires que vous pouvez voir sur les grilles.
Quels sont les avantages ?
Quels sont les avantages ? Alors, oui, les avantages, c'est que on est fonctionnaire institutionnel. Donc quand on est fonctionnaire, une fois qu'on a réussi le concours, on ne peut pas nous licencier. C'est-à-dire, on ne peut pas nous éjecter. Pour que je puisse, moi, un jour, être révoqué, il faut que je fasse une bêtise et que je sois condamné pénalement. Sinon, je peux faire une bêtise, on va me donner un avertissement. Si jamais je perds ma carte de police, ça peut arriver. Pourtant, je n'ai rien fait de mal. Eh bien, on va me mettre un blâme. Un blâme, c'est au-dessus d'un avertissement. Si je commets des actes involontaires ou volontaires, mais que je commets des violences illégitimes, ben, le magistrat va peut-être me condamner. Et auquel cas, je serai peut-être révoqué de la police. C'est-à-dire qu'ils vont me mettre dehors. Mais pour vraiment sortir de la police, il faut vraiment qu'on fasse une grosse, grosse bêtise. D'accord ? Sinon, les avantages, ben, on travaille avec des tenues d'uniforme, mais ça, c'est forcément pas... un avantage pour certains, mais moi j'adore porter l'uniforme parce que je trouve qu'on porte une institution républicaine à travers ce que je représente, c'est-à-dire la police nationale. Les avantages, c'est qu'on est aussi en équipe, on est comme les pompiers, hein, et on va aussi donner de sa personne vis-à-vis du public, c'est-à-dire qu'on va rendre service aux gens malgré tout ce qu'on peut voir en termes de capacité à enlever ou à réprimander. C'est vrai qu'on va mettre des amendes. En tout cas, les avantages, c'est quand on est fonctionnaire de police, on a un avantage, c'est qu'on a un statut institutionnel. D'autres avantages, on n'a pas d'avantage en nature, on a un salaire qui n'est pas suffisant par rapport au risque qu'on peut prendre sur la voie publique. Mais en tous les cas, l'avantage, c'est qu'on est dans une corporation qui nous permet d'évoluer. Il y a plus de 100 métiers dans la police nationale. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de faire des choses avec des chevaux, avec des VTT, avec des motos, avec des voitures, avec des avions, avec des hélicoptères, dans des services spécialisés comme les bateaux. Bref, on a tout un tas de métiers qui nous permet d'évoluer sans cesse. Donc ça, c'est un avantage aussi.
Quels sont les inconvénients ?
Donc le premier inconvénient, c'est que si on rentre dans la police, déjà, il faut être sportif. Et il faut savoir porter l'uniforme. Parce qu'une fois que vous avez un uniforme, alors c'est sûr, on est entre nous ici, bon, vous êtes des collégiens, je vais sortir sur la République, quelqu'un qui commet une infraction, peut-être que je vais l'arrêter. Peut-être que je vais lui dire ce qui s'est passé, je vais le contrôler, contrôle l'identité. Et si jamais il n'y a pas ses papiers, je peux l'amener au poste. C'est-à-dire que moi, je vais le contraindre à ne plus faire ce qu'il avait envie de faire. Donc ça, ce n'est pas toujours évident. Et puis les insultes, les injures, espèce de « en », « flic », etc., ça le... On sait très bien les noms d'oiseaux, vous les connaissez par cœur. Donc ça, c'est difficile pour certaines personnes d'avoir un statut de policier parce qu'on porte l'uniforme et de se faire insulter constamment. Ensuite, l'inconvénient, mais moi je trouve pas forcément, c'est qu'on a aussi une arme à feu et qui peut donner une arme létale, qui peut donner la mort. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en légitime défense, Si jamais mon intégrité physique ou celle de quelqu'un va être mise à mal et que je ne peux pas faire autrement, eh bien, peut-être que je sortirai mon arme à feu. En 34 ans de police, je n'ai jamais tiré sur quelqu'un. Vous voyez, 95% de policiers n'ont jamais tiré sur des personnes. En tirer sur des chiens, sur des voitures, peut-être. Sur des personnes, c'est compliqué. Ça arrive plus maintenant qu'avant. Mais en tous les cas, ça aussi, c'est un inconvénient. Parce que si moi, je fais feu sur quelqu'un, je vais tuer quelqu'un. Je vais le blesser mortellement. Alors, quelque part, ça va m'affecter, mais aussi la famille de la personne. Donc ça, c'est un inconvénient. Et puis, les inconvénients, c'est les horaires. Parce qu'il y a des policiers qui travaillent que les nuits. Il y a des policiers qui travaillent, là, ils font une journée complète. Ils commencent à 7h du matin, ils finissent à 19h. Pendant 2 jours. Après, ils ont 3 jours de repos. Après, ils travaillent 3 jours, ils ont 2 jours de repos. Bref, c'est les cycles horaires. Samedi, dimanche, jour férié, Noël, tous les fêtes, on travaille tout le temps. Donc ça aussi, c'est un inconvénient.
Payez-vous les voitures de police ?
Donc, pour information, et c'est vrai que là, c'est une très bonne question, vous savez que les voitures de police, c'est l'État qui paye. Donc c'est vos parents, c'est nous, à travers les impôts qu'on paye chaque année. Les amendes qui sont rétribuées quand on est condamné par un magistrat à une amende pénale, l'amende pénale va servir à réparer le préjudice qu'on a occasionné à une victime, mais aussi les frais de justice, les routes et aussi les infrastructures. Le collège est gratuit. Pourquoi ? C'est l'État qui paye. À travers quoi ? Les impôts que nous payons. D'accord ? Et donc, forcément, l'argent, les voitures, bah, c'est l'État qui comment on va payer. D'ailleurs, pourquoi nous, quand on prend nos voitures, on a les stations essence, il n'y a que Total. Pourquoi Total ? Parce que c'est Total Energy. Parce que cette station-là, cette société-là, a, une part, l'État a une part dans cette société-là. Donc en fait, quand je vais chercher du gasoil, ben, l'État, c'est pour lui, c'est pratiquement gratuit. Donc on ne paye pas notre gasoil, même si on a une carte essence. Mais c'est l'État qui prend en charge les voitures et puis l'essence qui va avec, hein, puisque on a très peu de voitures électriques pour l'instant. On en a une là qui est en essai, parce qu'il faut la recharger constamment, et nous on tourne 24 heures sur 24. Hein. Donc pour recharger une voiture électrique 24 heures sur 24, il faut plusieurs bornes. Pour l'instant, on est toujours en essence et un peu en gasoil.
Quels sont vos équipements de défense et d'attaque ?
Donc, la première, alors, les équipements, nous, on n'attaque pas. Donc, on ne peut pas dire qu'on est des éléments pour attaquer. Maintenant, les équipements, l'équipement protection, gilet pare-balles, d'accord ? Équipement de défense non létale, le pistolet à impulsion électrique, le fameux taser, une matraque télescopique. On a aussi des armes de notre arme de poing qui est le Six Sauer. Donc là, c'est notre arme obligatoire. Je suis venu, moi, à moitié en tenue en civil. Je suis obligé de porter gilet pare-balles parce que j'ai mon arme. Et parce que je suis en tenue d'uniforme. Le haut, j'ai laissé le bas aujourd'hui. Mais en tous les cas, je suis identifié comme policier. Donc là, je suis obligé d'avoir mon équipement de protection individuelle. Ensuite, on a des armes d'épaule, le G36, entre autres. Le lanceur de balles de défense, qui est un lanceur de balles en caoutchouc, mais qui n'occasionne pas la mort, mais qui peut éventuellement repousser une foule hostile. Donc on a beaucoup d'équipements, hein, qui permet justement de se défendre, de défendre aussi les intérêts de tout le monde. Hein, mais aussi, on a aussi des équipements de protection, comme des coques, comme des boucliers, des casques en Kevlar, qui permet justement de faire en sorte que le policier soit protégé contre des pierres ou des cailloux ou toute autre chose qui viendrait... Hein, de personnes hostiles qui voudraient éventuellement faire du mal aux policiers.
Avez-vous des autorisations pour vous servir de votre arme ?
Ok, donc dans la question, il y en a deux. Donc tout policier a prêté serment au tribunal, et quand on est policier sur la voie publique, je suis obligé d'avoir mon arme. Un policier qui ne peut plus exercer parce qu'il n'a plus la faculté physique, parce qu'il est malade, on lui retire son arme. Pour l'instant, il n'est pas sur la voie publique. C'est impossible. Par contre, dès qu'il va aller sur la voie publique, il est ce qu'on appelle apte voie publique, donc j'ai mon arme. Je n'ai pas d'habilitation. L'habilitation, je l'ai à vie. Par contre, là, ça fait 3 mois que je n'ai pas été au tir et on doit effectuer 3 tirs minimum par an. Moi, j'en fais 4 parce que je le veux bien. C'est 3 minimum de 30 cartouches. Là, mon tir, le dernier tir, il se date de plus de 3 mois. Donc, si je ne vais pas au tir au mois de juin, ça y est, je l'ai programmé, je ne peux plus repartir chez moi avec mon arme et je ne peux plus prendre mon arme comme je veux. Donc, il y a une obligation, pas une attestation, mais une obligation d'aller s'entraîner au tir. Et si on ne le fait pas, quelqu'un qui est malade, qui ne s'est pas entraîné au tir parce qu'il est parti pendant plusieurs mois, parce qu'il y avait en congé longue maladie, il ne peut pas revenir sur la République sans avoir vu la visite médicale et sans avoir fait un tir avant. Et ensuite, on a l'habilitation, et cette fois-ci, c'est les personnes qui sont habilitées, formées, pour utiliser que ce soit la matraque télescopique, que ce soit le lanceur de balles de défense, y compris les armes de poing, le G36, le GK, bref, ça, oui, il faut l'habilitation du taser, c'est pareil, il faut recevoir une formation d'une journée, 2 jours, 3 jours, sinon, bah moi, je ne peux pas avoir ça, parce que je n'ai pas l'habilitation pour certaines armes.
Avez-vous été déjà obligé de vous servir de votre arme contre les personnes ?
Donc, comme je disais tout à l'heure, effectivement, non. Pour ma part, je n'ai jamais utilisé mon arme contre une personne. Et il me reste 1 an et demi à faire, normalement, jusqu'à l'année prochaine, fin d'année. Et je souhaite de tout cœur que ça n'arrive jamais. Parce que même un policier qui est formé, qui est aguerri, aura toujours dans sa tête le traumatisme d'avoir fait usage de son arme, même si la personne voulait en découdre, voulait tuer des gens. En tous les cas, quand on tue quelqu'un, c'est traumatisant psychologiquement dans la tête, même si on est policier, peu importe. Donc, bien sûr que si jamais je suis face à une situation, on ne sait pas comment on va réagir, eh bien, je ferai en sorte d'éviter que soit je sois, moi, tué, soit que la personne qui peut-être va se prendre un coup de couteau ou la personne en face aura une arme à feu, peut-être que je sortirai mon arme, parce qu'on dit peut-être, parce que peut-être je suis en train de courir. Hein. Vous savez que les gens, on ne sait pas comment on va réagir, on est des êtres humains, on n'est pas des robots. Et donc effectivement, bah, peut-être que je ne serai pas forcément amené, à peut-être faire usage de mon arme à feu, mais en 34 ans de police, je n'ai jamais fait usage de mon arme vers une personne.
Devez-vous vous entraîner souvent au tir avec votre arme ?
Ok. Donc, Donc, encore une fois, nous, quand on sort de l'école, on est habilité parce qu'on a fait du tir durant l'école. Tout à l'heure, on parlait des métiers de la police. Effectivement, ce métier de policier, contrairement aux institutionnels comme les professeurs, qui sont dans une institution publique, comme les pompiers sont des vies, ils ont une tenue d'uniforme, les médecins. Mais nous, on va défendre l'intégrité physique des personnes contre les violences, mais aussi, on a une arme à feu. Hein, il faut savoir que les policiers, les gendarmes, les policiers municipaux ont une arme à feu, les convoyeurs de fond et les personnels de la SNCF, qui sont police SNCF ferroviaire, dans les trains, ont aussi une arme à feu. C'est-à-dire qu'une arme à feu, il faut quand même qu'on puisse la maîtriser. Moi, je sais la démonter, la remonter les yeux fermés. Je la maîtrise tous les jours, puisque quand je repars chez moi, il faut enlever la cartouche qui est chambrée ici, il faut faire les coups de sécurité, il faut la neutraliser pour qu'elle soit mise hors d'état de fonctionner pour le moment où je la mets en état de hors fonction. Une fois que le matin, ça y est, je repars, hop, ça y est, l'arme, tac, tac, je remets la cartouche dedans. C'est une obligation. Alors des fois, elle reste démontée, je la mets dans ma mallette, et puis il y a une mallette spécifique, et on met l'arme qui n'est pas montée, qui est démontée avec le chargeur à part, etc., les munitions à part. Ok. Mais une arme, c'est quelque chose de dangereux, à condition de bien comprendre que la dangerosité d'une arme, c'est quand on va ne pas la maîtriser et l'utiliser comme il ne faut pas. Moi, elle ne sort jamais d'ici. Elle ne peut pas sortir. Elle est bloquée. Il n'y a que moi qui sais comment la sortir. Et je la sortirai au moment opportun où en face de moi, j'aurai une personne qui peut-être va tuer des gens, peut-être va mettre un coup de couteau, ou peut-être va vouloir mon intégrité physique, sans forcément dire « je vais tuer le policier ». S'il reste là-bas dans le coin, si je sors mon arme, je suis en prison à vie. Parce que j'ai tué quelqu'un, j'ai commis un meurtre. Parce que lui, il n'avait aucune raison de venir, il était là-bas. Donc vous voyez que la légitime défense, entre guillemets, elle est vraiment importante. Et l'arme, c'est quelque chose de très important chez le policier, puisqu'il apporte Tout le temps. Y compris quand il est en civil, y compris quand il revient chez lui. Alors, ce n'est pas tous les policiers. Moi, j'ai l'autorisation de le faire parce que j'ai mes tirs et parce que j'ai demandé à le faire, comme ça, c'est plus facile pour moi. Mais tous les policiers, aujourd'hui, si. Depuis les attentats terroristes de 2015, tous les policiers repartent avec leurs armes chez eux, pratiquement.
Y a-t-il une formation pour dresser les chiens ?
Alors, dans la spécificité tout à l'heure, j'ai parlé de différents métiers, j'ai oublié. On appelle dans les policiers qui ont les chiens avec eux, on appelle ça des conducteurs cynophiles. Les conducteurs cynophiles font partie d'un équipage qui vont, comme il y en a un au chaînet. Donc, vous avez les chiens de défense. Les chiens qui vont servir à impressionner, à maîtriser une foule hostile lors des manifestations. Donc, ce sont des chiens de défense ou d'attaque. Ça, c'est la première catégorie de chiens. Ensuite, vous avez des chiens, il y en a là-bas, de recherche de personnes. Et beaucoup pensent que les chiens, c'est des chiens d'attaque ou de défense. Non, non. On utilise beaucoup les chiens pour rechercher des personnes qui ont disparu, mineurs, majeurs, etc. Juste avec l'odeur. Donc ça, c'est des chiens de recherche personne. Vous avez des chiens d'avalanche en montagne. Vous avez des chiens de recherche d'explosifs dans les voies, dans les aéroports, les voies maritimes, enfin les ports. Et donc ça, c'est encore une fois des chiens, des conducteurs de chiens policiers qui, bien sûr, travaillent pour pouvoir faire en sorte de trouver des explosifs. Et puis vous avez ici, on a deux chiens dans l'Île-de-France pour la recherche du stupéfiant. Quand on fait des perquisitions à domicile, le chien passe avant nous. Pourquoi ? Parce que lui, va de suite. Alors, on ne lui donne pas du stupéfiant à manger. Hein. Le chien, c'est que par le jeu. Une balle, une petite friandise. Mais le chien est basé sur le jeu. Donc, vous voyez que dans les métiers de la police, il y a beaucoup, beaucoup de différents métiers. Les conducteurs cynophiles, il y en a beaucoup différents. Recherche à personne, recherche d'explosifs, recherche de stup, recherche d'armes à feu. Aussi. Et maintenant, on forme des chiens pour les aéroports, pour tout ce qui est les produits qui viennent en provenance des pays exotiques, qui sont interdits en France, comme aussi des animaux, etc. Donc il y a des chiens qui sont dressés spécifiquement pour une catégorie de choses qui sont interdites en France.
Merci.
Avez-vous déjà ramené quelqu'un en garde à vue ?
Avez-vous déjà mis quelqu'un en garde à vue ?
Oui.
Ouais. Alors, la garde à vue, c'est un moment où on va priver de sa liberté une personne. Parce qu'elle a commis un acte qu'il faut savoir que cet acte-là, il est réprimandé pénalement. Et moi, je ne peux pas potentiellement lui dire « Bon, bah c'est bon, je te mets un avertissement. » C'est le juge qui doit décider. Mais pendant ce temps-là, je dois lui demander pourquoi il a fait ça, dans quelles conditions, est-ce qu'il était aidé de personne, donc je dois l'auditionner. La garde à vue, ça peut durer une heure, une demi-heure, comme 24 heures. Ça, c'est en France, le code de procédure pénale stipule que la garde à vue, c'est maximum 24 heures. Une fois que j'ai fait les 24 heures, je suis dehors, ou alors le juge dit « Non, 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 vous sortez pas, vous allez devoir le prolonger. » Donc je vous envoie un billet de prolongement de garde à vue. Et on prolonge la garde à vue d'une personne de 24 heures. On peut le faire 4 fois. En matière de terrorisme, en matière de trafic de stupéfiants et en matière de crime. Donc 4 fois 24 heures, ce qui fait 4 jours. Une garde à vue, ce n'est pas une prison. C'est juste, on garde à vue des policiers, une personne, le moment du déroulement de l'enquête. Donc oui, j'ai mis en garde à vue pour des personnes qui avaient commis des infractions pénales, du stupéfiant sur la route, qui avaient conduit sous l'emprise d'alcool, qui avait refusé d'obtempérer aussi, qui avait commis aussi des délits de fuite. Et donc, effectivement, dans l'espace judiciaire que j'ai fait au niveau des délits routiers, on a pu mettre en garde à vue. Mais seul un officier de police judiciaire a le droit de prononcer une mesure de garde à vue, sous couvert du magistrat qui stipule « Oui, c'est bon, j'ai pris acte que vous avez mis en garde à vue. Par contre, vous levez la garde à vue. » Là, dans 2 heures, vous faites l'audition, c'est bon, on fait un classement sans suite, ou alors vous me le convoquez en justice, vous faites une convocation en justice, et puis terminé.
Merci d'avoir répondu à nos questions. Nous sommes satisfaits de vos réponses. Une nouvelle fois, merci d'être venu. Au revoir et bonne journée.